Pour une âme qui se repent, il y a de la joie dans le ciel et de la joie devant les anges. Alors il y a de la joie dans notre cœur ce matin. Parce qu'une âme qui se donne à Jésus et qui s'engage avec Jésus, eh bien c'est la joie. Gloire à Dieu. Sans plus tarder, on va ouvrir la parole de Dieu. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, pour ceux qui connaissent leur Bible, il est question du baptême de Jésus. Et à l'occasion de ce service de baptême, je vous propose de nous arrêter ce matin sur le baptême de Jésus. Et on va lire tout le chapitre 17. Est-ce qu'on peut lire 17 versets au culte? Ça va? C'est pas trop? Et certainement, on aura d'autres lectures à faire. Donc, lisons tout ce chapitre qui nous parle donc du baptême de Jésus qui est quelque part mystérieux. Et nous en parlerons. Comment se fait-il que Jésus, le sauveur de l'humanité, le Fils de Dieu, et nous le savons, celui qui n'a commis aucun péché, ait fait cette démarche auprès de Jean le Baptiste pour se faire baptiser. C'est assez mystérieux, cette démarche de sa part, parce que nous pouvons en convenir facilement, s'il en est un qui aurait pu ne pas se faire baptiser, c'est bien Jésus. Pourquoi l'a-t-il fait? Quelle est la raison de cette démarche? On va s'entretenir quelques instants sur ce point ensemble. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, voici quel était son message, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui en confessant leurs péchés. Notez bien cela, en confessant leurs péchés, et ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême, beaucoup de pharisiens et de sadducéens, comprenez les religieux de son temps, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. » Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi ?» Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. » Petite parenthèse avant d'entrer dans le vif du sujet. Si parfois vous avez à parler à quelques personnes qui nient la Trinité, qui nient le fait que Dieu soit Père, Fils et Saint-Esprit, vous avez là un verset, un des versets que vous pouvez mettre en avant Parce que vous pouvez le constater avec moi, eh bien, il y a à la fois les trois personnes de la divinité. Il y a le Fils, la colombe du Saint-Esprit qui descend sur le Fils, et il y a une voix qui se fait entendre dans le ciel, la voix du Père. Et là sont réunis au moment du baptême de Jésus, eh bien, les trois personnes de la Trinité. Juste une petite parenthèse pour vous donner des éléments pour, eh bien, argumenter si cela est nécessaire parfois, eh bien, de la réalité de la Trinité. À l'occasion donc de ce service, ce matin de baptême, je voudrais qu'on s'arrête quelques instants sur ce baptême de Jésus tout à fait particulier. Vous savez que notre Seigneur Jésus est le modèle en tout, le savez-vous? C'est lui le modèle. Ce n'est pas les hommes, ce ne sont pas les hommes, et nous devons grandir à la stature parfaite de Christ, dit l'Écriture. Et notre ambition, notre saine ambition, c'est pas de ressembler à des hommes, mais c'est d'être le plus en plus à la ressemblance de Jésus-Christ. Alléluia. Parfois, lorsque nous nous comparons, je ne sais pas comment vous êtes, mais nous sommes tous un peu de la même nature. Quand nous avons tendance à nous comparer, on cherche toujours quelqu'un de moins bien que nous. Et dans ce cas-là, on se dit, finalement, par rapport à lui, je ne suis pas trop mal. Par rapport à elle, je ne suis pas trop mal. Et voilà la norme que nous essayons de mettre, ou alors quelqu'un qui aurait à peu près notre équivalent. Mais le Seigneur nous invite à lui ressembler, lui. Alléluia. C'est lui le modèle. Et c'est lui que, eh bien, vers lui que nous devons aller pour lui ressembler. Pourquoi dis-je cela? Je dis cela parce que le Seigneur Jésus est toujours le bon modèle dans notre vie, dans les choix que nous devons faire. Je le répète, on en parlera dans quelques instants, le baptême de Jésus est mystérieux. On ne comprend pas, dans une première lecture un peu rapide, pourquoi Jésus est venu de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par Jean. On ne comprend pas cela et on comprend, je pense que vous êtes d'accord avec moi, la réaction tout à fait légitime de Jean qui va dire « mais ce n'est pas moi qui dois te baptiser, c'est plutôt toi qui devrais me baptiser ». Et la réponse de Jésus est le titre de mon message ce matin, « Il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste ». Il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Cela fait environ 20 ans, exactement 18 ans, que Jésus n'a pas pris la parole en public, lorsque là, eh bien, il va venir vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser et qu'il va dire « il est convenable que nous fassions ce qui est juste ». Cela fait 18 ans puisque, vous le savez, la dernière fois où Jésus a parlé en public, il n'avait que 12 ans. Lorsqu'il est resté à Jérusalem, au temple, qu'il s'entretenait avec les maîtres de la loi, ils étaient étonnés par la science de cet ado de 12 ans qui, eh bien, avait une connaissance des choses de Dieu qui les étonnait. Et vous savez que ses parents, en tout cas ses parents sur la terre, je veux dire ceux qui l'ont élevé, Joseph et Marie, l'ont perdu. Et au bout d'un certain temps, ils se sont interrogés, où est Jésus? On voyageait en caravane à l'époque, alors rien à voir avec ce que vous mettez derrière votre voiture, hein. C'était donc tout du monde là qui voyageait ensemble, et puis on n'avait pas forcément besoin de s'inquiéter des enfants, car si l'enfant n'était pas directement avec nous, il était avec le cousin, il était avec les amis proches, la famille, et puis au bout d'un moment quand même... Joseph et Marie ont dit, mais il est où Jésus? Il est où? Et puis, ils se sont rendus compte qu'il n'était pas là, et ils l'ont cherché. Ils sont allés à Jérusalem, et ils l'ont trouvé dans le temple, et qui discourait avec les maîtres de la loi. Et vous savez que Jésus va donner cette réponse importante à ses parents qui s'inquiétaient de ce qu'il n'était pas avec eux quelque part. Jésus avait-il été désobéissant? Je pense pas. Jésus avait prolongé le temps que ses propres parents terrestres n'avaient pas fait. Et lorsque Jésus a répondu, il leur a dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Ma préoccupation, malgré le fait que j'ai 12 ans, malgré peut-être, eh bien, mon jeune âge, ma préoccupation, ce qui fait ma vie, c'est qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Comprenez, pour ceux qui peut-être ne serait pas initié. Il parlait bien sûr de son Père céleste. Il faut que je m'occupe de mon Père céleste. Mais la Bible nous dit que Jésus est retourné avec ses parents et il a été dans l'obéissance de ses parents et il a attendu le temps de Dieu. Vous savez que le mot « temps » dans le Nouveau Testament, il y a deux mots pour parler du temps. Il y a le mot « chronos ». Chronos qui a donné chronomètre, chronologie. Le mot « chronos » nous parle du temps qui passe. Et puis, avec l'âge, en se regardant dans le miroir, on trouve que le temps est en train de passer. Pour certains, les cheveux blancs sont là. Pour d'autres, les rides apparaissent, même si on essaye de trouver une crème miracle à base de bave d'escargot pour retarder l'échéance. La réalité, c'est que le temps passe. Félicitations pour les 30 ans de mariage de Lionel et Sabine. Nous les avons connus fiancés. Puisque Lionel était notre voisin de chambre, il habitait juste en face de nous. Et de temps en temps, nous avons vu Sabine venir et... pas dans la chambre, hein, mais on voyait qu'il naissait quelque chose. Et félicitations pour vos 30 ans de mariage. Nous, on a un peu plus, 32 ans. On vous gagne. Se compare pas. Mais vous voyez, il y a un autre mot pour parler du temps de Dieu. C'est le mot kairos. Dans le chronos, il y a le kairos. C'est quoi ce kairos? C'est le temps opportun, le temps de Dieu, le moment de Dieu. Et vous savez, nous sommes des gens pressés, oui ou non? Qui est patient dans ce lieu? Levez la main. Quand vous allez faire vos courses, choisissez-vous la file la plus longue au moment de payer ou la plus courte? Vous avez fait l'expérience avec moi, on choisit la plus courte et c'est au moment où vous arrivez qu'il y a des problèmes et que la file la plus longue passe plus vite que celle qui est plus courte. Ils se disent, pas possible. Mais nous ne sommes pas des gens patients. Et parfois, dans notre impatience, voulant parfois même aider le plan de Dieu, peut-être accélérer le plan de Dieu, nous faisons des choix qui ne sont pas bons. Moi, j'aime le Seigneur Jésus parce que lui qui est la parole, il est la parole faite chair, va rester silencieux pendant 18 ans et va attendre le temps de Dieu. Mes frères et sœurs, s'il y a une leçon que nous devons apprendre une nouvelle fois de notre Seigneur, c'est que même si c'est le plan de Dieu, même si c'est la volonté de Dieu, il faut attendre le temps de Dieu. Parce que Dieu a un temps. Dieu a un moment opportun. Et ce temps, il faut être capable de l'attendre patiemment dans la foi, mais aussi de s'en saisir quand c'est le moment. Il faut ce parfait équilibre de la patience et de la bonne réaction et de la bonne attitude lorsque c'est le temps de Dieu. Vous savez, l'Écriture nous montre que généralement, Dieu prend son temps. Dieu prend son temps. Nous sommes pressés. Parfois, nous croyons que le temps qui passe est un temps perdu. Mais souvent, nous apprenons avec l'Écriture et dans notre propre expérience que le temps qui passe est formateur pour nous, éducateur. Et vous connaissez tous ces hommes de l'Ancien Testament, ces hommes de Dieu de l'Ancien Testament, Moïse qui avait un projet pour libérer son peuple. Il a fallu qu'il attende, savez-vous combien de temps? Combien de temps, le savez-vous? 40 ans dans le désert à conduire quelques troupeaux de brebis de son beau-père, lui qui avait fait à l'époque les plus hautes études, eh bien, de son temps, qui aurait pu être un cadre, voilà qu'il se trouve derrière un troupeau de moutons dans le désert. Mais c'était le temps de Dieu. C'était le plan de Dieu. Et je voudrais dire à quelqu'un ce matin, ne hâte pas le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Patiente dans la foi. Et en son temps à lui, eh bien, la porte s'ouvrira selon sa volonté. Alléluia. L'Écriture nous dit même que pour la venue de Jésus, c'était au temps de Dieu. Pas n'importe quel moment, au temps de Dieu. Et puis vous connaissez l'histoire de Joseph aussi, qui a dû patienter pour entrer dans, eh bien, ce plan la volonté que Dieu lui avait révélée au travers d'un songe, et puis il a eu toute une histoire avant que ce plan se réalise, mais au temps de Dieu, au temps de Dieu. Voilà que les choses se sont réalisées. Il nous faut apprendre à être au temps de Dieu, surtout quand nous connaissons la volonté, quand nous sommes convaincus que c'est la volonté du Seigneur, il nous faut attendre le temps de Dieu. Donc après 18 ans de silence, car depuis l'intervention de Jésus dans le temple jusqu'à son baptême, nous ne connaissons rien de l'enfance de Jésus. Alors c'est vrai, parce que quand Dieu est silencieux et que nous avons du mal avec le silence de Dieu, les hommes ont tendance à faire parler Dieu. Alors il y a eu certains livres qu'on appelle apocryphes, canoniques, c'est-à-dire de seconde inspiration, qui ne sont pas reconnus comme inspirés de Dieu. Et c'est vrai qu'il y a des évangiles un peu forfelus qui ont été écrits parce que Dieu était silencieux sur l'enfance de Jésus. Alors des évangiles farfelus ont écrit des choses du style qu'un jour Jésus a eu des soucis avec ses camarades avec ses camarades, et puis à un moment donné, dans un évangile farfelu, il est dit qu'il a transformé ses enfants en oiseaux. Vous voyez ce qu'on peut dire comme bêtise quand on n'est pas inspiré par le Seigneur. Mais pendant 18 ans, Jésus se tait. Jésus attend. Dans l'atelier de son père, Joseph, il travaille de ses mains. Mais au bout de 18 ans, le silence est rompu. Et voici les paroles que Jésus va dire pour rompre ce silence. Il ne chasse pas un démon, il ne prend pas autorité sur une maladie, il ne prend pas autorité sur une mère déchaînée, mais le silence de 18 ans est rompu par cette déclaration. Il faut, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Accomplir ce qui est juste. Mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde injuste. Nous vivons dans un monde où la norme de ce qui est juste a été complètement dépassée. Oui ou non ? La borne a été déplacée. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où ce qui est mal est appelé le bien et le bien est appelé mal. Oui ou non ? Hier soir, en zappant à la télévision, de l'État, je veux dire financé par nos impôts, j'ai zappé et je suis tombé sur une émission de cuisine sur la 3. Je ne connais pas ces émissions de cuisine, moi. Mais j'ai été effaré de voir. Je dis, regarde ça, Chantal. Il y avait là un homme habillé en femme avec une barbe. Bon, c'est pas un péché d'avoir une barbe, hein. Et qui était là et qui parlait, je dis, mais alors je vais donner le mot, un transgenre barbu, en pleine émission de télévision, et nous sommes dans un monde qui est devenu fou. Oui ou non ? La borne a été déplacée, Dieu a été rejeté, l'autorité de la parole de Dieu a été rejetée, et permettez-moi de dire avec beaucoup d'amour mais de vérité, que Dieu fasse que cette norme ne soit jamais rejetée dans son Église. Que Dieu fasse que la base et la borne de l'Écriture restent en place au milieu de son Église. Alléluia. Des vents contraires sont là. Une apostasie est déjà là dans le monde chrétien et même évangélique. Et nous voulons être de ceux, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, nous voulons être de ceux qui gardent la norme de l'Écriture. Et dire au diable, ce que Jésus lui-même a pu dire au diable lors de la tentation, non pas ce que je pense, non pas ce que le monde pense, non pas ce que peut-être éventuellement le monde évangélique dans la plus grande façon ou peut dire, mais il est écrit. Voilà ma norme. Il est écrit. Alléluia. Alors Jésus va rompre le silence et va dire, il faut faire ce qui est juste. Mes frères et sœurs, alors que nous vivons dans un monde qui n'est pas juste, je prie que dans l'Église de Jésus-Christ, nous recherchions ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est intègre, ce qui relève de la norme de l'Écriture. Alléluia. Et nous voulons dire au Seigneur, parce que nous sommes devant le Seigneur ce matin, n'est-il pas vrai, mes frères et sœurs ? Nous voulons dire au Seigneur, assisté du Saint-Esprit, Nous voulons garder ce qui est juste dans ta maison. Alléluia. Garder ce qui est vrai. Garder ce qui est intègre. Il y a là, lorsque Jésus vient se faire baptiser, une foule qui se rassemble autour d'un prédicateur peu commun. Il est plutôt rustique. Il est bourru. Parce que quand même, il accueille les gens, en tout cas les religieux de son temps, il les accueille avec cette belle parole, « race de vipères ». Je ne sais pas si vous avez été accueillis ce matin comme cela dans l'église de Sainte-Agne. Non, hein. Mais imaginez, vous arrivez, et puis le prédicateur est là, il dit, « race de vipères, pourquoi tu viens au Seigneur? Tu veux échapper à la colère de Dieu ?» Il est bourru. Son habit est fait de peau de chameau. Ce matin, je voulais prendre mon habit peau de chameau, mais ma femme m'a dit, j'ai pas le temps de le repasser, donc tu mettras le costume. Oh, c'est une blague, hein. Vous pensez pas que j'ai un peau de chameau à la maison, hein. Il sort dans ses zoos. Il prêche dans les déserts. Moi, je suis étonné par ce prédicateur tout à fait particulier qui a choisi comme auditoire le désert, comme lieu pour annoncer les... Mes amis, il y a d'autres lieux quand même, hein, pas le centre-ville de Toulouse, hein. Un désert. Et les gens viennent. Les gens viennent au désert pour entendre le message de Jean-Baptiste qui était, excusez-moi de le dire ainsi, mais c'est ma pensée, son message était une véritable obsession. Son message se limitait à quelques mots. Repentez-vous, 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 repentez-vous. Aujourd'hui, nous vivons aussi dans un monde qui cherche ce qui lui plaît. Je parle même des chrétiens, on risque de vous choquer. Alors, il n'y a rien de nouveau. Je n'ai pas besoin d'être prophète pour dire cela, mais l'Écriture nous a prophétisé de ces temps, dans les temps de la fin, où chacun cherchera ce qui lui plaît. Et ils se donneront une foule de docteurs. Et il y a dans le monde chrétien et même dans le monde évangélique quelques églises où vous pouvez entendre ce qui vous plaît. Peut-être flatter votre chair, flatter votre orgueil, un message du style « Vous êtes les meilleurs et je ne sais pas comment le monde ferait pour tourner sans vous. Je ne sais pas comment Dieu ferait si vous n'existiez pas. » Et on a des slogans, mais d'une bêtise pas possible, pardon de vous le dire aussi franchement que cela, merci d'exister. Vous avez entendu cela? Et puis ça fait fureur, ça a été repris sur les réseaux, mais mes frères et sœurs, nous existons par la grâce de Dieu, nous existons, c'est juste la grâce, nous n'y sommes pour rien d'exister. Oui ou non? Et voilà comment le monde évangélique peut tomber dans des aberrations pas possibles, et ne plus émettre le message le plus essentiel, parce qu'au risque peut-être de vous choquer, mais je crois que ce n'est pas le cas. Le message essentiel dont nous avons besoin, que nous avons besoin d'entendre, qu'un jour j'ai eu besoin d'entendre, que vous avez eu besoin d'entendre, que la sœur qui va passer par les eaux du baptême dans quelques instants a eu besoin d'entendre, c'est « repentez-vous ». Non, mes frères et sœurs et chers amis, nous ne sommes pas les meilleurs, nous ne sommes pas les plus beaux. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin du pardon de Dieu de nos péchés, oui ou non? Et nous avons besoin de nous repentir. C'était le message de Jean-Baptiste, c'était le message de notre Seigneur Jésus. Ce fut aussi, vous le savez, après la Pentecôte, le message de Pierre et des apôtres qui a dit à cet auditoire qui était là, repentez-vous. La repentance, mes amis, est incontournable. Il interpelle tout le monde et il interpelle en particulier les religieux drapés dans leurs beaux habits, prenant soin de cacher leur hypocrisie religieuse. Ces pharisiens et ces sadducéens qui impressionnaient tout le monde lorsqu'ils apparaissaient drapés dans leurs beaux habits religieux, on faisait silence, on s'inclinait devant eux. C'était les garants d'une certaine autorité spirituelle. Et voilà que lorsqu'ils approchent de Jean-Baptiste, eux qui sont habitués à quelques vénérations, eux qui sont habitués à quelques salutations toutes particulières, voici que Jean-Baptiste les accueille par un « race de vipères ». Oui, ils avaient besoin d'entendre qu'ils avaient besoin de la grâce de Dieu, qu'ils avaient besoin de se repentir. Tout le monde vient se faire baptiser vers ce Jean surnommé le Baptiste, parce que justement, il est baptisé. Mais Jean-Baptiste rappelle qu'il n'y a pas d'intérêt dans le baptême, et je tiens à le souligner ce matin, s'il n'y a pas d'abord repentance. Mes amis, permettez-moi de vous dire que des baptêmes sans repentance ne servent à rien. Si vous avez besoin d'un bain, vous avez des baignoires ou des douches chez vous. Un baptême sans repentance, et je vais y revenir dans quelques instants, sans la démonstration par des fruits de la repentance, ne sert à rien. Nous avions, il y a quelques années de cela, pris une église et nous faisions les visites pour prendre contact avec les frères et sœurs. Et un jour, dans une visite chez la personne, en m'asseyant là où elle nous avait demandé de nous asseoir, je suis tombé sur une statue de la Vierge Marie, juste en face de moi. Donc j'ai quand même posé la question. J'ai dit, et je savais qu'elle venait de se faire baptiser 15 jours ou 3 semaines avant notre arrivée. Alors j'ai posé la question innocemment en disant, oh, c'est un souvenir de famille, c'est un héritage, vous avez peut-être hérité ça de votre maman, et puis voilà, j'ai cherché le truc, quoi. Elle me dit, oh, non, de temps en temps, je la prie. Oh, j'étais assis. Ça m'a évité de tomber à la renverse. De temps en temps, je la prie. Je dis, mais il y a un souci, ma sœur, là. Il y a un souci, j'essaye de lui expliquer. Elle a été un peu agacée, elle m'a dit, mais de toute manière, je suis baptisé. Je suis baptisé. L'air de dire, ben, comme je suis baptisé, c'est bon. Les amis, le baptême ne sauve pas. Oui ou non, mes frères et sœurs? S'il y a un baptême sans repentance, ça ne sert à rien. On peut toujours essayer de démontrer quelque chose par un acte comme ceci, mais la profondeur des cœurs, permettez-moi de vous dire que le Saint-Esprit les sonde et il voit s'il y a repentance. C'est aussi le message de Jean-Baptiste. Il va appeler à la repentance et il va quand même ajouter, manifester les fruits de la repentance. Quelqu'un qui se convertit à Jésus, ça se voit, ça s'entend, oui ou non. Oui ou non, mes frères et sœurs. Parfois, chez les jeunes filles, et pas que chez les jeunes filles, la longueur de la jupe se rallonge. Oui ou non? Le langage change. La façon d'être change. Il y a les fruits qui se manifestent. Ça se voit. Et c'est ce que Jean va dire à ses religieux en particulier. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Quand on se convertit à Jésus, notre conversion ne se résume pas à fréquenter une église le dimanche matin, à dire un amen tonitruant ou alors même à apporter notre offrande au Seigneur. Ça, c'est pas suffisant. Ça doit imprégner toute la vie de la personne. Et souvent, lorsqu'il y a une conversion réelle et sincère, nous, parfois, ne voyons pas les fruits de cette repentance, mais vous avez dû l'expérimenter, notre entourage est étonné, ils nous disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Francis, tu n'es plus le même, tu as changé. Ma femme aurait dû dire amen à chaque fois. C'est notre entourage qui rend ce témoignage. Et mes amis, permettez-moi de vous dire que ce ne sont plus les plaisirs et les folies de ce monde qui sont les centres d'intérêt de nos vies. Le centre d'intérêt porte un nom, c'est Jésus. Alléluia. Quand je me suis converti à Jésus-Christ, je faisais tous les week-ends beaucoup de sport, beaucoup d'heures de sport. Et le jour où je me suis converti, j'ai arrêté du jour au lendemain. Mes copains venaient me rechercher en disant « Francis, tu viens, tu joues plus avec nous, tu fais... » J'ai dit « Non, moi maintenant, mes samedis sont consacrés au Seigneur, je vais à l'église, à la réunion de jeunesse. Ok, donc demain je serai le matin au culte et demain après-midi, à la réunion d'évangélisation. Mon centre d'intérêt avait changé. Non pas parce que j'étais devenu un parfait religieux, mais parce que Jésus avait pris toute la place. Alléluia. Amen. Le centre de ma vie s'appelait Jésus. Et il s'appelle encore Jésus aujourd'hui. Jésus va dire à ces religieux qui se targuaient de leur descendance et d'un pédigré extraordinaire. Regardez bien le texte. Avez-vous encore votre Bible sous les yeux? On va relire quelques versets. Verset 10, il est dit: déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bon fruit sera coupé et jeté au feu. C'est sérieux ce que dit Jean-Baptiste, oui ou non? Jean-Baptiste dit: tout arbre qui ne porte pas de bon fruit sera coupé et jeté au feu. Un arbre qui ne porte pas de fruit ne sert à rien si ce n'est à faire de l'ombre, quand encore il peut faire de l'ombre. Mais généralement, quelqu'un qui plante des arbres pour, par exemple, un maraîcher qui plante plusieurs catégories d'arbres, un pêcher ou je ne sais pas ce que vous voulez, ce qu'il attend, c'est qu'au bout du compte, cet arbre lui donne des pêches, oui ou non? Et s'il ne donne pas des pêches, à un moment donné, il va le couper, il va le remplacer. Le Seigneur Jésus est en train de dire à ses religieux, attention, le verset suivant, il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint point. Et il s'adressait particulièrement aux pharisiens, aux sadducéens. Qu'est-ce qu'il disait? Il avertissait les hommes de ne pas se reposer sur leurs privilèges extérieurs, sur leur union extérieure avec l'Église. Il nous avertit que fréquenter une Église n'est pas suffisante, qu'avoir même des responsabilités dans une Église n'est pas suffisante. Ce qui compte, c'est que la vie de Dieu coulant en nous produise des fruits. Alléluia. Dans un autre passage, Paul dira à Timothée que tes progrès soient évidents de tous. Est-ce que vous faites des progrès depuis que vous êtes au Seigneur Jésus? Oui, est-ce que vous faites des progrès? Est-ce que les gens qui vous entourent d'abord dans votre foyer, là dans la vie, je dirais, intime, pas secrète, mais intime, avec vos plus proches. Est-ce que votre femme peut dire de vous, mon mari fait des progrès? Parce que les progrès qu'on peut montrer à l'église, c'est une chose. Les progrès qu'il y a à la maison, ça, des fois, c'en est une autre. Est-ce que vos enfants peuvent dire de vous, mes parents font des progrès dans la vie avec Dieu? Que Dieu nous aide à porter les fruits qu'il nous demande de porter. Ce qui compte, ce ne sont pas les apparences. C'est ce que dira Jésus aux religieux de son temps. Ce qui compte, ce ne sont pas les apparences. Ce qui compte, c'est le fruit que vous portez à cause de votre repentance. Est-ce que nous produisons ce fruit? Et pardon de le dire, mais je ne devrais même pas m'excuser, c'est l'Écriture qui le dit, si les fruits ne sont pas là. Dieu qui voit au cœur fera en sorte que les arbres qui ne portent pas de fruits soient jetés au feu. Seigneur, moi je veux aller au ciel. Oui ou non, mes frères et sœurs? Oui ou non, mes frères et sœurs, je veux aller au ciel. Je ne veux pas dire simplement, je suis pasteur, missionnaire, je prêche l'Évangile. Mais d'abord, Seigneur, est-ce qu'il y a le fruit de la repentance dans ma vie? Est-ce que ma vie a changé? Est-ce que ma vie change? Est-ce que les gens ont envie d'être avec moi, dans ma compagnie? Est-ce que j'apporte le baume du Saint-Esprit autour de moi? On va avancer pour terminer. Votre pasteur m'a dit que j'avais entre 2 heures et 2 heures et demie. Je l'en remercie. Mais là, je suis en train de mentir. Alors, je vais terminer avec cette question, mais pourquoi Jésus s'est-il fait baptiser? C'est mystérieux, oui ou non? Vous l'avez vu comme moi, Jean s'oppose au baptême de Jésus. Il a déclaré, c'est pas à moi de te baptiser, c'est plutôt à toi de me baptiser. En fait, ce que Jean-Baptiste est en train de reconnaître, c'est que moi je suis un pécheur, mais toi tu es sans péché. Et on le comprend, Jean-Baptiste a envie d'inverser les rôles. Remarquez d'ailleurs que Jean a refusé le baptême aux religieux ou refusait le baptême aux religieux parce que il leur disait « Repentez-vous, ne faites pas pour bien vous faire voir, je ne sais pas ». Comme tout le monde se vient se faire baptiser, eux, quelque part, ils ont dit on va essayer de gagner encore le cœur de la foule, donc on va se faire baptiser. Mais c'était un prophète, Jean-Baptiste. Il était animé par l'Esprit de Dieu. Et il voyait derrière leur apparence religieuse, derrière l'hypocrisie religieuse, il voyait la réalité du cœur et il les amenait à se repentir. Et remarquez bien que Jean refusait le baptême aux religieux parce qu'il ne voulait pas se repentir et que le baptême ne servirait à rien. Mais il refusait de baptiser Jésus à cause de son innocence. Il a refusé de baptiser Jésus à cause de son innocence. Jean savait très bien que Jésus était sans péché. Il le savait très bien. Vous savez que cet homme, Jean-Baptiste, a été marqué déjà dans le sein de sa mère. Vous vous souvenez de ça? Quand Marie est venue, il s'est passé quelque chose. Mais Jésus va dire, et c'est là ma première leçon, j'ai deux leçons pour terminer, pourquoi Jésus s'est fait baptiser. Jésus va dire, il faut faire ce qui est juste. Et ce qui est juste, le chemin que je vais emprunter, c'est le chemin que mes disciples devront emprunter un jour. Ce qui est juste, c'est que je me fasse baptiser. C'est que je montre le chemin. Vous savez, ce dernier prophète de l'Ancien Testament, parce que quand vous lisez l'histoire de Jean-Baptiste, même si nous sommes dans le Nouveau Testament, eh bien nous sommes encore dans l'alliance de l'Ancien Testament, c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament, et vous savez que ce prophète ne négociait pas avec le péché. Il disait ce qu'était le péché. Vous savez, aujourd'hui, parfois, on essaye de dire que le péché, ce n'est pas le péché, c'est une erreur. Parfois, on dit que ce n'est pas le péché, c'est une maladie. Mes amis, ce n'est pas une erreur, le péché. Le péché, c'est la démonstration de notre nature. Nous péchons parce que notre nature est pécheresse, oui ou non? On peut en faire des erreurs, il nous arrive de faire des erreurs. Mais il y a une différence entre faire une erreur et pécher. Je parle bien sûr de ceux qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur Jésus, de ceux qui n'ont pas connu cette régénération par le Saint-Esprit. Nous péchons tant que nous n'avons pas rencontré Jésus parce qu'il est dans notre nature de pécher. Oui ou non? Je sais qu'un philosophe français célèbre a dit que l'homme est né bon, c'est la société qui l'a corrompu, vous connaissez cela. Sauf que je prends toujours cet exemple, vous mettez des enfants qui sortent des jupes de la maman. Vous mettez deux petites filles, vous êtes avec moi, qui sortent des jupes de la maman. Vous les mettez toutes les deux dans une pièce avec une seule poupée Barbie, par exemple. Vous savez ce qui va se passer? Elle va mal finir, la Barbie. Hein, qui t'a appris? Tu sors des jupes de ta mère. Tu es encore en train de boire du lait. Qui t'a appris à être comme ça? Personne ne lui a appris. Ce n'est pas la société qui l'a corrompue. C'est la nature de l'homme. Et mes amis, il faut à cette nature pécheresse, non pas un discours philosophique, non pas de l'intellectualisme, il faut prier pour une conviction par le Saint-Esprit de péché, de justice et de jugement. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit te convainc, vous en avez fait l'expérience avec moi, vous ne négociez pas avec Dieu, vous dites oui, je suis un pécheur. Oui, j'ai besoin de la grâce de Dieu. Donc Jésus, vous le savez, n'avait pas besoin de se faire baptiser. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'il a été tenté en toutes choses, sans commettre de péché. Mais pourquoi se fait-il baptiser alors? Eh bien, parce qu'il nous montre le chemin de ce qui est juste. Amen. Ce qui est juste, c'est qu'après avoir cru, nous nous fassions baptiser. Amen. Oui ou non? C'est ça qui est juste. C'est ça le modèle. Et moi, je me suis converti, on ne m'a pas enseigné dans ce qu'est le baptême, et mon professeur des théologies concernant le baptême fut ma fiancée, qui est devenue mon épouse. C'est elle qui m'a enseigné sur le baptême. Et elle m'a fait comprendre qu'il était important de se faire baptiser. Alors moi, je disais, mais non, je n'ai pas besoin de me faire baptiser. Je suis au Seigneur, je suis passé par la repentance, je suis une nouvelle créature. C'est bon comme cela, on ne m'avait pas enseigné. Chantal, avec beaucoup de persévérance et d'intelligence, m'a enseigné sur ce qu'était le baptême. Et un jour, j'ai dit, il faut que je me fasse baptiser. Et une des choses qui m'ont convaincu, c'est que toi, Seigneur, tu l'as fait. Si toi, tu l'as fait, je dois le faire moi aussi. Et puis, je termine avec la deuxième pensée. Vous savez, quand Jésus s'est présenté pour se faire baptiser, lorsqu'il est arrivé vers Jean-Baptiste, il y avait des foules qui se faisaient baptiser. Et devant lui, peut-être, l'Écriture ne le dit pas, mais on peut le penser, devant lui, il y avait des prostituées qui venaient de se faire baptiser, des voleurs. Derrière, des soldats romains qui étaient brutaux, qui s'étaient repentis de leur brutalité, qui se faisaient... Donc, comprenez avec moi, Jésus était en train de tremper avec des gens de mauvaise vie. Il trempait là avec eux. Quand nous étions missionnaires au Niger et qu'on faisait des baptêmes qui n'avaient pas d'eau, on amenait de l'eau de Niamey et puis on avait un baptistère transportable où on mettait de l'eau. Et on faisait les baptêmes, la norme c'était minimum 100, hein, 100 baptêmes, des fois 200. Donc les premiers qui passaient, parce qu'ils ne se changeaient pas, nos frères et sœurs, ils étaient dans leur habit de brousse, la poussière, tout ça. Donc les premiers qui passaient, l'eau elle était claire, mais arrivés au 150e, on ne voyait plus le fond. Vous êtes avec moi? L'eau était boueuse. Et nos bien-aimés entraient dans ce baptistère d'eau boueuse sans aucun problème. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que l'eau, au regard des religieux, était comme contaminée par le péché des autres dans leurs pensées. Et vous savez que les Juifs, lorsqu'ils sont sur une terre où on élève des cochons, je ne sais pas si vous le savez, mais leur culture, ils la font hors sol. Parce qu'ils pensent que là où sont les cochons, ils ont contaminé la terre là où ils sont. Donc ils font de la culture au sol, hors sol, sur des pilotis. Et vous savez ce qu'a fait le Seigneur Jésus? Et pour moi, c'est la deuxième raison pour laquelle Jésus est descendu dans les eaux du baptême. C'est qu'il dit, et il nous dit, et il disait à l'époque à ceux qui... Je descends avec vous dans votre péché. Je ne suis pas un maître qui se tient loin, qui ne veut pas être souillé. Aussi bas vous êtes tombés, aussi bas je viens vous chercher. Alléluia. Mes frères et sœurs et chers amis, écoutez-moi bien ça. Jésus est celui qui est descendu avec nous dans notre péché. Amen. Aussi bas nous tombons, aussi bas Jésus vient nous chercher. Je vais vous inviter à vous recueillir avec moi quelques instants. Est-ce qu'on peut fermer les yeux ou baisser la tête? Je sens cette liberté de faire cet appel avant de terminer ces moments. Il y a quelqu'un ce matin qui se dit, c'est pas pour moi l'évangile, je suis allé trop loin. Il y a même peut-être un enfant de Dieu qui se dit, là en ce moment, ce que je fais là, je suis allé trop loin. Je suis dans la boue du péché, je m'enfonce dans mon péché. Peut-être est-ce l'adultère, la pornographie, le mensonge, le vol. Je suis tombé si bas. Le Seigneur nous rappelle ce matin qu'aussi bas nous sommes tombés, aussi bas le Seigneur viendra nous chercher. Et je voudrais faire cet appel et prier pour vous. Alors que les yeux sont fermés, les têtes baissées, s'il vous plaît, pour la discrétion, parce que c'est des moments tellement sérieux qu'il faut laisser le Seigneur parler à nos cœurs et que nous ne soyons pas sous une pression humaine. Le regard des autres, ce qui compte, c'est le regard de Jésus. Et écoutez-moi bien, chers amis, le regard de Jésus, c'est un regard d'amour. C'est un regard de grâce. Et si tu te repens de ton péché, si tu décides ce matin de l'abandonner, Jésus va te faire grâce. Alléluia. Je m'adresse à ceux qui n'ont pas encore fait la rencontre avec le Seigneur, mais aussi aux enfants de Dieu qui, aujourd'hui, se disent, j'ai atteint un point de non-retour. Laisse-moi te dire que tu n'as pas atteint un point de non-retour. Jésus veut et peut te faire grâce ce matin. Si vous avez besoin de la prière, levez votre main là où vous êtes et je prierai pour vous. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse aussi. Y a-t-il quelqu'un? Que Dieu vous bénisse. Oui, vous aussi. Oui, madame, sur la droite. Alléluia. Oui, oui, jeune homme, que Dieu te bénisse. Y a-t-il quelqu'un encore? Et puis, je vais prier. Oui, oui, que Dieu te bénisse. Oui, madame, oui, monsieur, oui. Amen, oui, que Dieu te bénisse aussi. Peut-être que le Seigneur s'adresse aussi à ceux qui ont besoin de se repentir parce qu'ils sont comme dans une hypocrisie religieuse. Ils cachent les choses et ils ont décidé d'être justes devant Dieu. Vous pouvez lever votre main aussi et le Seigneur est celui qui nous fait grâce. Merci Jésus. Merci Seigneur parce que tu es vraiment lent à la colère et riche en bonté. Merci Seigneur parce que tu nous appelles à toi. Et ce matin, je sais Seigneur que nos bien-aimés qui ont levé la main, ils l'ont fait devant toi, ils sont cœur à cœur avec toi, tête à tête avec toi. Et je sais que ce ne sont pas mes paroles, mes arguments, c'est le Saint-Esprit qui a convaincu leur cœur. Je te rends grâce, ô Saint-Esprit, pour ton ministère qui est un ministère de conviction. Et je sais, Seigneur, que nos bien-aimés qui ont levé la main devant toi l'ont fait en se repentant et en te demandant grâce, grâce, Seigneur, et secours-moi. Je veux arrêter avec mon péché. Je veux en être délivré. Je veux l'abandonner, mais je n'y arrive pas par moi-même. Alors je réclame l'action de ton esprit dans ma vie. Viens au secours, Seigneur, de ma faiblesse et viens me donner la force de rejeter le mal et de choisir le bien. Bénis nos bien-aimés. Toute l'Église s'associe avec moi dans la prière et peut dire Amen. L'Église prie pour que ses bien-aimés soient touchés, sauvés et mis au large de la puissance du péché. Au nom de Jésus, nous te prions, Père. Amen. Amen.